Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Dans cet épisode, j'accueille Victor Ferry. Victor est un YouTuber, il a 124 000 abonnés. En fait, sa chaîne a vraiment décollé sur l'année dernière, puisqu'il y a un an, il avait seulement 5 000 abonnés. Donc avec Victor, on va parler de YouTube. On va parler de comment est-ce qu'on décolle sur YouTube, qu'est-ce que ça fait de décoller, qu'est-ce que ça fait de passer en un an de 5 000 à 124 000 abonnés. Qu'est-ce qui a fait le succès de Victor et qui a fait que sa chaîne a explosé assez rapidement. On va parler de comment trouver un format qui fonctionne pour vous. On va parler de comment équilibrer les demandes de l'audience avec les vidéos que vous avez vraiment envie de faire. On va parler de combien de temps est-ce que ça prend vraiment de faire une vidéo YouTube, comment trouver les bons sujets, etc. Victor a un format de vidéo qui se rapproche assez du mien, donc c'est intéressant de comparer les endroits où nos méthodologies sont similaires et les endroits où ils sont différents. Sur ce, sans plus de transition, je vous propose d'écouter ma conversation avec Victor Ferry. On parlait juste avant de commencer de l'expérience d'être YouTuber et des commentaires. Ce que je voulais voir avec toi, parce que ça t'est arrivé assez récemment, c'était quoi l'expérience de vraiment exploser sur YouTube? Parce qu'en fait, si on regarde un petit peu ton social blade, t'as quelque chose qui est un petit peu comme le mien, où en fait, t'es là, tu montes petit à petit, tu fais quelques centaines d'abonnés par mois, t'es environ à 6000 abonnés, et en fait, le mois suivant, tu vas bondir et en fait, tu vas plus que doubler tes abonnés, tu vas arriver à quelque chose comme 16 000 abonnés. En fait, quasiment du jour au lendemain, tu as une vidéo comme ça qui va décoller. C'est quoi l'expérience pour toi de te dire, OK, je suis sur YouTube, je fais des trucs, ça marche, ça monte et tout d'un coup, ça s'accélère comme ça et aujourd'hui, tu es à plus de 100 000 abonnés?
Bah, ça fait plaisir. C'est la première chose, ça fait très plaisir. Et en fait, c'est quelque chose que je recherchais parce que depuis que j'ai commencé sur YouTube, je m'étais fixé cet objectif de gagner une communauté de plus en plus grande. Et c'était pour moi un test pour voir si c'était possible d'appliquer les outils rhétoriques que j'avais développés à ce média qu'est YouTube. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai longtemps refusé les collaborations. C'est parce que je voulais voir si c'était possible de monter juste en bossant son discours, en travaillant sur un discours qui peut capter les gens du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, ça fait très plaisir parce que ça permet de voir que mes vieux outils, parce que la rhétorique, c'est une discipline qui a plus de 2 millénaires, ça fait plaisir de voir qu'ils sont encore efficaces aujourd'hui.
C'était quoi la vidéo qui a vraiment fait le point de bascule?
Il y en a eu plusieurs, en fait. La première fois que j'ai compris comment ça fonctionnait YouTube, c'était il y a longtemps, c'était il y a 2 ans, je crois, où j'avais fait une vidéo sur le passage d'Alexandre Benalla au journal télévisé. Donc, à l'époque, je ne savais pas très bien comment marchait YouTube, mais il y avait cette vidéo d'Alexandre Benalla face à une journaliste où il disait « Mais non, mais je n'ai pas frappé ce gars dans la manifestation. » Et derrière lui, il y avait la vidéo où on voyait que clairement, il était en train de frapper un gars. Et pour se justifier, il utilisait des outils rhétoriques qui consistent à faire des distinctions fines du type « Je ne l'ai pas frappé, j'ai fait un mouvement brusque. » Et donc, j'ai fait une vidéo de réaction à cette séquence. Et alors que sur ma chaîne, je faisais 100-200 vues, la vidéo a fait 15 000 vues. Et donc, j'ai compris que, en fait, une manière de faire grandir une chaîne, c'était d'être réactif par rapport à l'actualité. Et donc, j'ai retenté ça plusieurs fois. Et souvent, quand on tente ça, on se plante. Mais j'ai l'impression que plus la chaîne grandit, plus quand on est réactif au buzz, ça fonctionne. Et donc, j'ai retenté ça après avec quand Marlène Schiappa est venue chez Cyril Hanouna. Là, je me suis dit, Schiappa, Hanouna, deux personnes qui sont détestées, c'est sûr que si on les met ensemble dans une vidéo, ça va marcher. Et comme ça, au fur et à mesure, j'ai utilisé cette technique de prendre des vagues de sujets desquels tout le monde parle pour pouvoir attirer les gens vers les vidéos qui me tiennent vraiment à cœur. C'est comme ça que j'ai fonctionné.
Donc, tu as deux types de vidéos. Tu as les vidéos buzz et les vidéos qui te tiennent à cœur.
Ouais, en fait, les vidéos qui me tiennent à cœur, c'est des vidéos où je me moque en fait de ce que les gens attendent et je reprends vraiment mon costume de professeur parce qu'à la base, je suis professeur. Et quand on donne des cours à la fac, bah, notre objectif, c'est vraiment que les gens sortent de la salle en ayant appris des choses, en étant édifiés, même s'ils traînent les pieds en fait. On considère que l'utile est plus important que leur plaisir. Et mon objectif, c'est aussi de faire ça sur YouTube. Et donc, des fois, bah, je vais m'efforcer, même si c'est agréable en fait de faire des vues. Je m'efforce au moins une vidéo sur quatre de prendre un sujet que je choisis vraiment dans ma bulle, indépendamment de tout ce qui se passe autour, juste parce que je considère que c'est ce qui est bon pour les gens.
Et c'est quoi du coup ton expérience sur ces vidéos? Est-ce que de temps en temps, elles fonctionnent mieux que tu t'attends, quelles sont leurs performances globales. Mais évidemment, elles ne vont pas devenir nécessairement virales, mais au niveau de la réaction des gens et au niveau de la réception.
Bah, c'est une réception qui est qualitative, parce que du coup, il y a moins de gens qui sont là parce qu'ils sont juste pour le sujet, en fait. Juste parce qu'ils ont été attirés, parce qu'ils sentent qu'il y a du buzz, qu'il y a du clash, etc. Et donc, j'ai souvent des commentaires du type « c'est ta meilleure vidéo ». Et c'est des commentaires qui font plaisir, parce que même si ça fait 10 fois moins de vues que d'habitude, bah, y a le plaisir du travail bien fait. Et puis le fait que c'est quand même énorme. Quand je donnais cours à la fac, bah, il y avait 300 personnes dans la salle. Et là, j'arrive à partager des choses qui me tiennent vraiment à cœur avec 30 000 personnes. Donc, c'est déjà génial.
On a parlé d'un peu de la recette de YouTube. Il y a deux grands chiffres qu'on connaît en tant que YouTubeur qui sont le taux de clic et la durée de visionnage. Donc, le taux de clic, on en a un petit peu parlé. Peut-être qu'on reviendra sur le sujet plus tard, mais c'est l'idée que tu veux probablement avoir quelqu'un de connu dans ta miniature ou un truc que les gens connaissent déjà, plus une nouveauté que tu vas leur apprendre sur un truc qu'ils connaissent déjà, et probablement de la négativité. La négativité, ça fait quand même beaucoup de clics, l'idée qu'il y a un conflit, il y a un truc. Donc, soit quelqu'un que les gens n'aiment pas et donc ils cliquent dessus pour te voir défoncer cette personne, soit révéler un truc un peu sombre, un peu secret, ou expliquer pourquoi quelqu'un fait les choses mal, etc. Ça tend à bien fonctionner au niveau de la miniature. Le deuxième chiffre, c'est cette durée de visionnage. Et toi, tu parlais de tes outils rhétoriques, et c'est vrai que là, c'est pour le coup, je trouve que tu as une approche assez unique au niveau de la manière dont tu vas écrire notamment et la manière dont tu vas structurer tes vidéos. Ça m'intéresse de comprendre comment est-ce que ces outils rhétoriques te servent dans l'écriture des vidéos pour en fait captiver les gens et leur donner envie de rester.
En fait, je pense que l'outil, parce que il y a beaucoup d'outils qui sont en commun avec le marketing, mais je pense que l'outil qui est vraiment proprement rhétorique, c'est le travail sur le style. Donc, c'est cette idée que une fois qu'on a une idée, on se demande, mais comment est-ce que je peux reformuler cette idée d'une manière où vraiment ça sonne, ça résonne. Et là, on a des outils. On a des outils comme des figures de style qui sont beaucoup des effets de parallélisme ou de répétition. On va avoir des outils comme les rimes et ça permet à différents moments de la vidéo de lancer des phrases où les gens se disent « Tiens, là, il se passe quelque chose. » Parce que c'est ça, en fait, l'intérêt du travail sur le style, c'est que souvent, quand on fait une vidéo, on est dans un style de la conversation. Donc, on est en train d'impliquer le public, on lui dit « vous voyez », on lui pose des questions, etc. On essaie de se rapprocher. Mais il y a des fois où c'est important aussi de créer une distance avec le public. Et c'est à ça que ça sert une figure de style. Ça rompt la routine de l'usage quotidien du langage. Parce que c'est des formules qui sont pas dans le langage quotidien. Et donc ça, c'est un outil que j'utilise régulièrement. Et je pense que c'est celui qui est le plus proprement rhétorique.
Et c'est celui qui va vraiment te distinguer, parce que moi, par exemple, dans la manière dont je vais approcher mes vidéos, même si je vais être extrêmement scripté, enfin, je vais écrire tout, ce qui suppose du coup est aussi ton cas.
Ouais, j'écris tout.
Je vais essayer d'écrire de manière à ce que ça soit conversationnel, de manière à ce que ce soit pas évident et pas transparent que je suis en train de lire. Et surtout, je vais, dans mes vidéos, adapter des codes de YouTubeur. En fait, moi, ma grande idée de départ, c'était que faire un cours sur le marketing, ça fait chier tout le monde et personne n'a envie de regarder un cours sur le marketing. Les gens ont envie de regarder du contenu YouTube natif et YouTube a ses codes pour certaines raisons, c'est parce que c'est ça que les gens ont envie de regarder et donc du coup, ça rentre dans la manière dont ça va être monté, la manière dont ça va être écrit, la manière dont ça va être présenté. C'est le contenu profond que je veux faire, mais si tu parlais pas du tout français et que tu voyais ma vidéo, tu pourrais presque penser que je fais des vidéos comme Squeezie, tu vois, pas tout à fait 100% au niveau du montage, c'est pas non plus totalement aussi frénétique, mais je reprends volontairement les codes de YouTube et je m'approprie les codes de YouTube sur mon contenu. Et toi, tu vas écrire d'une manière qui attire l'attention sur le fait que c'est écrit. Tu vas avoir des rimes, tu vas avoir des cadences qui se répètent, tu vas presque le déclamer d'une certaine manière. En fait, quand on tombe sur tes vidéos, c'est totalement du coup différent de tout ce qu'on a pu voir parce que ta manière de parler est différente. Et même avant qu'on arrive en fait sur ton analyse, ton contenu, ton avis sur quelque chose, en fait, on a déjà eu quelque chose de différent. Il y a une forme de pattern interrupt, si on prend le terme marketing, qui est de « tiens, je ne m'attendais pas à ça, il y a un peu une surprise ». Notamment comme, pour le coup, les miniatures rentrent plus dans un code YouTube de le clash de machin ou les erreurs de machin. Et d'un coup, on arrive sur un gars qui va nous présenter un truc de manière très carrée et du coup unique sur YouTube. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui allait faire cet effort en termes d'écriture. Ça, c'est quelque chose que tu as fait parce que tu considères que c'est à la seule manière qui est authentique pour toi? Est-ce que tu l'as fait par stratégie en te disant ça va me différencier, il faut que je fasse un contenu unique? Comment est-ce que tu as réfléchi en gros au style d'écriture et de diction dans tes vidéos?
Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était une bêtise d'essayer de reprendre les codes des vidéos qu'il y a autour de nous. Parce que ça devient très vite ringard. Au début, en fait, quand j'ai fait mes premières vidéos, j'ai essayé de faire ça. Des montages où tu cales deux, trois mèmes. J'ai même fait des choses vraiment ridicules où j'ai essayé de jouer différents personnages.
Ouais, okay.
Tu vois, l'horreur. Et heureusement, c'était au début de YouTube, tu vois, parce que y a très peu de gens qui les ont vus.
Ouais.
Et en fait, tu te rends compte que ce que tu as fait une espèce de mauvaise parodie de ce que font les autres gens autour de toi.
Ouais.
Et donc, c'est une grosse bêtise. Et très rapidement, j'ai corrigé le tir en me disant, mais bon, en fait, c'est quoi la différence que tu as avec la plupart des youtubeurs? C'est que tu viens du monde académique, c'est que tu as un doctorat, c'est que, et en plus, ta discipline, c'est la rhétorique. Et donc, il faut assumer d'être ce que tu es. Et c'est vrai que j'aime bien quand c'est écrit, j'aime bien quand il y a des références auxquelles les gens s'attendent pas. J'aime bien dépoussiérer des choses. Et aujourd'hui, en fait, j'assume ça à fond. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me recentrer sur ce qui est spécifique. Et en fait, ça fait du bien. En fait, ça fait du bien de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre sur YouTube.
Donc, tu appuies sur ton avantage, qui est en fait ton parcours académique, qui est vraiment cette contrainte sur le côté un peu plus historique et ancien de la rhétorique, plutôt que finalement... Et le marier, du coup, c'est intéressant à des éléments d'actualité. Donc, tu es vraiment sur quelque chose de très actuel et à la fois quelque chose de très ancien. Et ça fait un mariage assez unique. On a parlé du coup de découvrir un petit peu ce style plus largement en termes de format. Et donc du coup, le format, ça serait quelle est un peu la recette que tu peux répéter sur tes vidéos? Toi et moi, on a des formats qui sont similaires, en tout cas sur certains éléments de surface, qui sont de faire des analyses, donc de prendre un élément et de partir là et de dire, OK, qu'est-ce que je peux raconter là-dessus? Comment est-ce que toi, tu es arrivé sur ce format? Il me semble que tu avais testé différents autres formats, enfin, comme on a tous testé différents formats finalement avant de trouver quelque chose qui marche, une formule qui peut être répétable sur différents sujets. Comment est-ce que tu es arrivé au format aujourd'hui que tu fais en termes d'analyse?
Je me suis posé la question de finalement, qu'est-ce que c'est que la valeur et qu'est-ce que c'est que l'impact? Et j'ai réalisé qu'en fait, la valeur et l'impact, c'est le fait que les gens, une fois qu'ils ont regardé notre vidéo, ils ont des choses qu'ils peuvent appliquer directement pour se rapprocher de leur objectif. Et finalement, qu'est-ce que c'est que les éléments détachables qu'on peut donner d'une vidéo, qu'on peut tirer d'une vidéo? C'est des listes. Donc, c'est une liste de règles, c'est une liste de compétences, c'est une liste d'étapes. Et donc, j'en suis arrivé à cette idée que plus il y a de gens qui regardent mes vidéos, qui en ressortent avec quelque chose qu'ils vont pouvoir appliquer directement, et plus j'aurai d'impact, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à se dire « mais oui, c'est une méthode, je ne suis pas juste un spectateur passif, je suis aussi un acteur », et plus des gens seront reconnaissants, vont se dire « tiens, mais j'ai appris quelque chose ». Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce facteur de la persuasion qui est persuader les gens de revenir. Et donc, ce que je fais, c'est que je me mets aux aguets de ce qui se passe dans l'actualité, et quand je vois un sujet qui émerge, je me dis « tiens, ça c'est intéressant ». Et la deuxième étape, c'est je me demande comment est-ce que je vais passer de l'intéressant à l'utile pour le public. Et donc, ce que je me demande, c'est comment est-ce que je peux rapprocher cette séquence dont tout le monde parle dans les médias d'une situation que les gens qui me regardent peuvent vivre au quotidien.
D'accord.
Et donc, par exemple, je vais prendre Juan Branco face à Pauline de Malherbe et je me dis, tiens, ça pourrait être comme un entretien d'embauche qui tourne mal. Et donc, ça, mon public peut être dans cette situation. Comment est-ce que je vais faire pour les aider à affronter ce genre de situation? C'est comme ça que je travaille.
Et plus largement, en termes de process, comment est-ce que tu t'organises? Combien de temps ça prend globalement de faire une vidéo? Et comment est-ce que tu organises les recherches, l'écriture, le tournage, le montage? Comment est-ce que tu gères ce travail-là?
Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que ça prend de moins en moins de temps. Ça qui est vachement bien. Et en fait, j'arrive à faire tout seul.
J'ai l'expérience inverse, moi.
Ouais.
Faudrait que tu me donnes des conseils, parce que ça prend de plus en plus de temps, j'ai de plus en plus de monde.
Mais parce qu'en fait, une partie de mon métier, c'est de créer des modèles de discours. C'est ça que fait un rhétoricien, c'est qu'il observe différents types de situations. Il se demande comment est-ce que je peux formaliser ça en un petit modèle de discours que je vais pouvoir réutiliser plus rapidement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un moment, j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos que j'avais faites, j'ai regardé les différents formats qu'il y avait, et j'ai systématisé. Et donc, du coup, maintenant, j'ai différents modèles de discours et ça me permet de les utiliser une fois que j'ai un élément dont je veux parler pour produire rapidement un discours. Et donc, le premier temps...
Ce serait quoi, par exemple, le type de modèle que tu aurais ?
La quête. Donc, une quête où je présente un problème. Je montre que ce problème, il est dangereux, qui concerne le public. Et après, je dis aux gens, je vais vous donner votre épée, votre bouclier, et on va l'affronter. Et après, je fais un plan tout à fait classique. Un premier danger se rapproche, on va l'affronter. On a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Un deuxième danger se rapproche. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, sinon...
Ce serait plus une vidéo de conseil, moins une vidéo d'analyse, du coup. Est-ce que ça peut s'appliquer sur une vidéo d'analyse si, en fait... Tu arrives à faire rentrer les étapes dedans.
Ah, mais toutes mes vidéos, mon objectif, c'est que ce ne soit pas juste de l'analyse. Et c'est justement pour ça que j'avais fait une vidéo pour me distinguer des décrypteurs. C'est que je considère que quand on fait des vidéos où on réagit à l'actualité, il y a un gros risque que le public se complaise dans un sentiment de supériorité intellectuelle. C'est « Oh, qu'est-ce qu'on est intelligent ? Qu'est-ce qu'on est plus intelligent que ces gens ? Regardez toutes les choses qu'il y a à dire sur leur discours. » Et moi, je ne veux pas ça. Parce que si on entretient notre public là-dedans, si tu n'élèves pas les gens, ils finissent par te rabaisser. Et donc, moi, mon objectif, c'est que toutes mes vidéos qui commencent comme des analyses, ça finisse par des conseils où les gens ne se disent pas « qu'est-ce que je suis plus intelligent que ces gens que je vois à la télé ?» mais qui se disent « mais en fait, je peux faire mieux et je dois faire mieux. »
Donc, si on avait ce modèle de la quête, est-ce que tu as d'autres exemples qui viennent en tête de modèles de discours justement qui peuvent être applicables sur différentes vidéos ?
Alors, en fait, ce que je fais, c'est que j'ajoute au fur et à mesure différents éléments pour renouveler ce modèle de base. Parce que je n'ai pas envie de devenir une caricature de moi-même. Et ce que je fais, c'est que je teste des choses. Et la dernière fois, en fait, c'était... j'avais regardé un film qui n'est pas génial, mais qui s'appelle, je crois, Les Traducteurs, où c'est des gens qui sont enfermés dans un sous-sol et ils doivent traduire... un ouvrage d'une méga star et c'est un projet super secret et pendant qu'ils sont dans cette cave il y a des pages qui fuitent et du coup il y a un thriller pour se demander qui est-ce qui a balancé les pages et donc c'est typiquement un polar avec ces structures où on attire ton attention vers un coupable potentiel puis au bout d'un moment on dit bah non en fait c'est pas lui et après on attire ton attention sur un autre coupable et en fait c'est pas lui et une fois que t'as saturé comme ça toutes les possibilités, le public, il est piégé, il se dit « mais en fait, ce n'est pas possible ». Et bim, tu lances un twist. Et donc, j'ai essayé d'appliquer cette technique dans une série de vidéos. Donc, par exemple, concrètement, comment est-ce que je l'ai appliqué ? J'ai fait une vidéo sur la Bible du développement personnel, donc le livre qui s'appelle « Les quatre accords Toltec ». Ouais. Et je me suis dit, vu que mon public est plutôt opposé au développement personnel, je vais faire toute une première partie de la vidéo où les gens vont se dire « mais c'est pas possible, il adhère à tout ce bullshit postmoderne, comment ça se passe ?» Et donc, les gens se disent « mais non, mais c'est pas possible, il va vraiment endorser ce livre. » Et à la fin, bim, je dis « ok, et maintenant on va voir ce qui va pas. » Donc, c'est ce genre de choses. J'essaie de regarder dans différents formats que je vois quelles sont les petites astuces rhétoriques que je peux récupérer. Et une fois que j'en ai identifié une, je l'applique dans 3 vidéos de suite pour être sûr que je le maîtrise.
D'accord. Et donc, tu te forces du coup à faire 3 vidéos sur ce modèle. Et après, tu te dis, OK, ça, c'est un truc que je mets dans mon sac à dos. J'ai une corde à mon arc et tu peux tester autre chose. Intéressant.
Et donc, ça fait que j'enrichis la gamme et je peux les réutiliser pour pas que ça ronronne trop. Et ça permet de se lancer des défis à soi-même aussi.
Du coup, on était ici dans la sous-catégorie de combien de temps ça prend et quel process de créer une vidéo. Tu me dis que du coup, ça te prenait de moins en moins longtemps parce que tu gagnais en expérience. Je suis curieux déjà de savoir, un script de vidéo chez toi, il fait environ combien de mots ?
4 pages. Okay. Ça fait à peu près 4 pages. Je n'ai pas compté en termes de mots, je t'avoue.
Combien de temps est-ce que ça te prend d'écrire, par exemple, un script ? Combien de temps ça te prend ensuite de le relire, de faire toutes les retouches ? Moi, c'est un des éléments qui me prend de plus en plus longtemps. C'est la relecture, la réécriture, où je suis de plus en plus exigeant, en fait, avec mes scripts.
Mais ouais, je sais, t'as l'air de galérer, t'as mis du temps pour écrire ton livre aussi.
J'ai mis 6 mois.
On sent que t'es perfectionniste comme ça.
J'ai mis 6 mois. Après, le livre, pour le coup, c'est vraiment un truc, tu vois, c'est un peu, il est là pendant 10 ans, ça va te représenter, etc. Tu vois, j'avais à cœur de le faire à fond. Mais pareil, sur les vidéos, tu vois, de plus en plus, je me dis, cette vidéo, Au fil du temps, elle va faire 300, 400 000 vues. Autant la faire bien et prendre 4 heures de plus pour peaufiner mon script et vraiment ma structure et être sûr que tout est le bon flow. Et plus tu as de gens qui te regardent, plus tu vas avoir de gens qui ne comprennent pas, qui sont paumés. Donc, être sûr que toutes les objections potentielles elles sont répondues, enfin, comme sur une page de vente. Tu vois. Et d'un coup, tu blindes un peu plus le truc que finalement, avant, j'aurais juste fait mon script et je me dis, bah voilà, je corrige les fautes d'orthographe et puis voilà, je le fais, tu vois. Et encore, sur une vidéo, les fautes d'orthographe, je m'en fiche. Donc,
Alors, j'ai été dans une phase comme ça il n'y a pas longtemps où je commençais à me mettre une pression de dingue, où je me disais, ouais. Mais non, mais je commence à avoir beaucoup de gens qui me suivent, il faut que ce soit parfait. Et là, ça étendait largement le temps de production des vidéos. Ouais. Et puis là, je me suis dit, mais non, mais je vais revenir aux bases. Il faut que je redevienne un pirate. Il y a un événement qui se produit et bim, je réagis. Je suis le premier qui réagit là-dessus. Et j'ai fait ça avec la vidéo sur JP Fanguin, où donc l'influenceur suisse, là, salut à toi, jeune entrepreneur. J'ai vu ce truc, j'étais en train de bosser sur un truc long et lourd. Et je me dis, mais non, mais faut que je réagisse à ça. Et donc là, j'ai fait une vidéo que j'ai torchée en 3 heures. Et c'est une vidéo qui a vraiment pris très vite et qui a très bien marché. Ouais. Et du coup, je me dis qu'en fait, il faut que j'arrive, même sur les vidéos qui me tiennent à cœur, même sur les vidéos de plus long terme, que j'arrive à récupérer ça. C'est-à-dire, non, ben, je me dis, je me lance dans ce projet comme si je devais la sortir demain. Et en fait, le fait de se fixer un petit peu d'urgence comme ça, ça permet de faire quelque chose très rapidement. Et en fait, on est capable de faire du bon travail parce que quand on a fait plus de 100 vidéos, on peut faire du bon travail, même si on le fait vite.
Tout dépend après. Moi, ce qui me... Après, ça dépend des vidéos, mais je fais de plus en plus de vidéos avec énormément de recherches, etc. Et donc, du coup, je peux passer un peu de temps à trouver les bons trucs. Après, je trouve les bons extraits, je construis le truc. Je dis, ah tiens, voilà, ça, c'est l'idée, etc. Donc, je vais le faire ensuite. Ouais. Et puis après, mes vidéos, mes dernières vidéos qui ont bien marché faisaient 30 minutes aussi. Donc, ça a fait le truc, c'est que moi, j'ai été de plus en plus sur du contenu long. J'ai vu que toi, c'est pas trop la démarche que tu as, mais pour moi, parce que c'est là où je vais vraiment récupérer le watch time. À partir du moment où j'ai compris comment garder l'attention des gens, plus ma vidéo est longue, plus j'aurai de watch time, plus elle va marcher fondamentalement. Et toi, au contraire, je vois que tu fais encore pas mal de vidéos. Donc, du coup, je pense que tu n'as pas constaté ça. Tu fais plutôt des vidéos qui vont avoisiner les 8 minutes et parfois même moins. Donc, ce n'est pas trop ton calcul, finalement, de faire des trucs plus longs.
Non, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Enfin, les vidéos, quand je m'installe sur ces... pour regarder tes vidéos, je ne fais pas autre chose à côté. Je me dis, tiens, voilà, ça c'est... Ça fait plaisir, ça dure longtemps et c'est très bien ce que tu fais, c'est vraiment de la grande qualité et j'envisage de faire des vidéos de ce genre-là. Mais en fait, je considère que ma chaîne, pour le moment, elle est encore en expansion et vu que j'ai trouvé un schéma qui fonctionne bien, je vais le garder. Ouais. Par contre, j'ai lancé une chaîne secondaire à côté pour là faire des choses beaucoup plus expérimentales. C'est dans cette démarche que je suis à l'heure actuelle.
C'est intéressant que tu aies lancé une seconde chaîne parce que je l'ai remarqué en faisant les recherches pour ce podcast. Je me suis demandé, mais pourquoi as-tu fait ça?
Moi, j'ai
deux chaînes et tu vois, l'autre est surtout pour le podcast, etc. Donc je considère sérieusement investir de plus en plus de temps sur la chaîne secondaire. Mais il y a un côté où quand tu es tout seul et tu fais déjà une vidéo par semaine sur ta chaîne principale, c'est casse-gueule de devoir alimenter une seconde chaîne, de voilà, faire démarrer à partir de zéro, de faire des vues, de chauffer ton algorithme, d'avoir des recommandations, etc. Alors que voilà, sur ta chaîne principale, tu as l'air de faire des trucs qui marchent déjà bien.
Ben, je vais te dire, en fait, c'est que de temps en temps, tu sais, quand ça commence à marcher, je trouve que c'est vraiment important de se recentrer sur ta mission. C'est quoi finalement ce qui compte pour toi ? Et moi, je suis fondamentalement un professeur et un citoyen. Et vraiment, la chose qui me motive, et c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube à l'origine, c'est d'ouvrir une immense université. Et donc, ce qui m'intéresse dans l'ouverture de cette chaîne secondaire, c'est de donner un sens à la notion d'atelier. Donc, je demande aux gens de m'envoyer leur texte. Voilà, vous êtes en train d'écrire un manifeste politique, envoyez-moi ça. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle, envoyez-moi ça. Et donc, ça permet comme ça de créer un cercle vertueux où ça va être de plus en plus le public qui alimente la chaîne. Et ça permet d'atteindre un objectif que je trouve vraiment très beau. C'est que, en fait, on pourrait recréer une espèce de monde avec que des intellectuels, des auteurs, des écrivains dans toutes les villes. C'est ça qui me passionne. Et donc, pour motiver mon public, bah, j'ai aussi créé ce nouveau format où quand je me balade, quand je me promène en France, bah, je vais leur présenter un auteur de la ville dans laquelle je me balade pour que les gens se disent « Mais oui, en fait, on est dans un terrain où il y a plein de grands penseurs, il y a plein de grands auteurs qui ont émergé. » Et j'ai envie de reconstruire ça. Et ça permet d'impliquer les gens dans ce processus. Donc, évidemment que cette chaîne va moins bien marcher que la première, mais j'ai ce plaisir de me dire, mais en fait, voilà, maintenant, j'ai le pouvoir, enfin, j'ai l'influence nécessaire à porter les choses qui me tiennent vraiment à cœur fondamentalement. Et ça me tient à cœur. Que la rhétorique, ce ne soit pas juste une discipline de salon ou une discipline poussiéreuse, que ce soit un outil dont les citoyens s'emparent pour faire des belles choses et pour rendre le monde un peu plus beau.
Du coup, en termes stratégiques, pourquoi est-ce que tu as besoin de faire ça sur une deuxième chaîne plutôt que le faire sur la chaîne principale ?
Parce que c'est des formats qui impliquent plus les gens. Et donc, sur la chaîne principale, c'est très bien. Et puis, moi, j'aime bien être dans le game. J'aime bien pouvoir être dans les tendances. J'aime bien pouvoir faire du YouTube. Et sur la seconde chaîne, bah, je fais quelque chose de beaucoup plus artisanal, quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une formation ou à un cours. Et ça concerne que les gens qui sont motivés pour le faire.
Donc, tu penses que mélanger les deux, ça tirerait vers le bas, en fait, l'attraction sur la chaîne principale ?
Ben, en fait, j'avais essayé de faire une formation complète en rhétorique sur ma chaîne principale. Donc, j'ai fait une espèce de calendrier de l'avant rhétorique en décembre de l'année dernière où j'avais publié une vidéo par jour. Et c'était des vidéos où vraiment, ben, je considérais que mon public était avec moi dans une salle de formation. Et puis, on allait faire des exercices, on allait faire des discours. Et en fait, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché. Il y a pas mal de gens qui se sont sentis spammés parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour avoir quelque chose qui ressemble à de la formation, mais qui est aussi un petit peu du divertissement. Et donc, on a le droit parce que moi, quand je vais sur YouTube, c'est aussi beaucoup pour consommer des contenus qui sont, qui m'instruisent, mais qui me détendent. Mais sur la deuxième chaîne, là, on bosse. C'est un atelier de rhétorique, donc on travaille. C'est pas du divertissement.
Est-ce que tu as réfléchi à la manière dont tu vas lier ces deux chaînes ? Comment est-ce que tu fais passer ? Du coup, il y a une espèce d'entonnoir qui se fait avec un truc plus large sur la chaîne principale, un truc plus réduit sur la chaîne secondaire. C'est aussi, moi, un élément qui m'intéresse aujourd'hui pour raccourcir, en fait, le gap qui se trouve aujourd'hui entre ma chaîne YouTube, qui va être extrêmement grand public, et du coup, tu arrives sur ma liste email, et ça va être extrêmement technique. Et du coup, tu vois, sur ma chaîne YouTube, par exemple, jamais supposé que mon audience, c'est nécessairement ce qui est une landing page. Si tu lis mes emails et que tu me dis c'est quoi une landing page, je te réponds, désolé, enfin, tu vois, je vais pas définir des termes aussi basiques dans mes emails, enfin, c'est pas possible. Donc, du coup, en fait, il y a une progression dans ton contenu. Et pour moi, la progression, elle va vraiment de la vidéo la plus mainstream de ma chaîne principale, je sais pas, Loot Wall Street, à des vidéos plus pointues aussi sur la chaîne principale qui existent. Genre ma vidéo sur comment monter un business ou la vidéo sur la productivité ou des trucs comme ça, à l'email, etc. Donc du coup, toi, tu te dis comment est-ce que je vais passer les gens de la chaîne principale vers la chaîne secondaire et quelles seraient tes méthodes pour le faire. Et ensuite, une fois que les gens sont sur la chaîne secondaire ou une fois que les gens, ils ont démontré une volonté d'apprendre, en fait, qu'est-ce que tu leur proposes après ?
Donc, ce qui se passe, c'est que de toute façon, toutes les analyses que je fais, mon objectif, c'est que les gens se disent « je peux faire mieux que ça ». Parce que je trouve ça trop triste, en fait, de faire juste des analyses. Voilà, tu vois, on va dire, voilà, les professionnels de la politique, ils vous mentent, ils sont méchants, ils font n'importe quoi, etc. C'est trop nul, c'est trop triste. Et donc, de toute façon, dans toutes mes vidéos, à la fin, il y a un appel à l'action qui consiste à dire aux gens mais prenez votre part de pouvoir. En fait, arrêtez de penser que la politique, c'est fait pour les autres. Arrêtez de penser que le pouvoir, c'est fait pour les autres. Arrêtez de penser que vous ne pouvez pas devenir l'élite. Donc, mon appel à l'action, c'est toujours ça. Et donc, à la base, bah, cet appel à l'action, ça débouchait sur d'autres vidéos de la chaîne principale. Et maintenant, de plus en plus, cet appel à l'action débouche sur des contenus que je conçois en parallèle de ce que je fais sur la chaîne principale pour donner les outils qui vont leur permettre vraiment de passer à l'action. Et c'est très bien. Et donc, il y a une partie des gens qui me suivent, qui vont acheter des formations chez moi, qui vont faire du coaching chez moi, et c'est très bien. Et ça permet de faire vivre ça permet de faire tourner l'affaire. Mais je garde toujours cette optique de professeur. Je tiens vraiment à ça, que des gens puissent atteindre un niveau important en rhétorique, puisse commencer à agir sur le monde, puisse commencer à écrire sans avoir à dépenser de l'argent. Et c'est aussi pour ça que je monétise mes vidéos. C'est parce que je considère que c'est vraiment chouette qu'on ait aujourd'hui des outils qui permettent de financer du contenu gratuit utile.
Et du coup, c'est quoi ton envie nécessairement de vendre ou de faire grossir aujourd'hui les chiffres d'affaires? Parce que pour être honnête, quand j'ai regardé ce que tu faisais, je me suis dit, tiens, les vidéos sont vraiment top, etc. Mais j'ai l'impression que derrière, tu t'en fiches de gagner de l'argent. Enfin, vis-à-vis de la manière dont tu as structuré ton business, je ne sais pas si c'est le cas ou si... ou si c'est pas un truc que tu as encore trop optimisé au niveau, je pense, par exemple, de la capture d'email. Aujourd'hui, c'est clair que si tu veux gagner de l'argent sur Internet, il faut avoir une liste email. Si tu as une liste email et que tu fais des grosses vidéos, il faut faire un appel à action dans tes vidéos sur un truc sur la liste email, par exemple. Tu vois, donc la capture d'email, c'est un truc qui sera clé. Et après aussi, la manière dont tu vas vendre, tu vois, parfois sur tes pages de vente, j'ai l'impression que presque tu n'as pas envie de le vendre trop. Tu vois, tu en fais très peu. Il y a des pages de vente qui sont extrêmement courtes, y compris sur des trucs tu as un accompagnement, il me semble, un coaching, etc. Tu vois, c'est un truc assez conséquent, assez important pour les gens. Mais en fait, j'ai l'impression que ta page de vente, elle fait 600 mots, quoi. Du coup, je me demandais, toi, si c'était un truc en fait, où tu te dis, c'est vraiment si les gens ont envie de le prendre qu'ils le prennent, ou est-ce que tu as une stratégie plus délibérée de te dire, moi, j'ai envie de construire ça, j'ai envie de le développer aussi de cette manière-là, aussi sur l'aspect financier. Comment est-ce que tu réfléchis à cette question? Parce qu'après, tu vois, il y a différentes priorités, tu vois, en fonction des gens. Donc, c'était intéressant de voir que tu avais moins l'air de mettre l'accent sur cette partie-là que d'autres personnes qui sont dans ta position.
Ouais, bien sûr. Déjà, je vis bien, en fait. Je vends des formations, je vends des coachings et ça marche bien. Et je suis plus dans une optique de continuer à avoir de l'argent pour vivre bien. Mais vraiment, mon objectif, c'est de faire quelque chose d'utile et de beau. Parce que à la base, je voulais faire une carrière de chercheur. C'est ça qui me motivait dans la vie. C'était de pouvoir travailler, à développer des idées, à les partager pour améliorer la société. C'est ça mon combat. Et il se trouve que j'ai pas pu le faire en me faisant financer par de l'argent public. Et donc, j'ai dû, par la force des choses, lancer un business d'entrepreneur. Mais voilà, j'ai besoin de gagner de l'argent. Mais ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas mon objectif de gagner le plus d'argent possible parce que je pense qu'à la fin, ce qui reste, c'est ce qu'on a apporté. Et même, tu sais, quand tu commences à avoir de l'argent, quand tu commences à gagner 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, etc., il y a toujours un moment où tu dis « Ok, mais pourquoi ?» Quand tu as commencé à régler toutes ces choses du type « c'est bon, je vis bien, je suis heureux, tout se passe bien », la question du sens arrive. Et moi, je suis en plein dedans, en fait. C'est ça qui me plaît. C'est de me dire, voilà, j'ai pas cette chance, en fait, d'être insensible au destin du monde. Il y a des gens qui s'en fichent un petit peu du destin du monde. Et moi, mais des trucs tout bêtes, en fait, quand je vois des papiers sur le bord de la route, je le prends personnellement. Quand je vois des incivilités, je le prends personnellement. Quand je vois quelqu'un qui grille un feu, je le prends personnellement. Et je n'arrive pas à dormir bien tant que je sens que je ne vais pas mon maximum pour qu'on aille vers un monde un peu plus juste et un peu plus beau. C'est ça qui me motive au fond.
Donc, tu vois vraiment cette partie business, en fait, simplement comme un moyen de financer le reste.
Absolument.
Et comme un moyen de poursuivre en fait, cette démarche de chercheur. Du coup, tu as l'impression, en passant de chercheur à l'université à je fais des vidéos, tu as l'impression d'avoir gagné en marge de manœuvre intellectuelle, on va dire, ou d'avoir perdu dans le sens où finalement, tu peux peut-être pas faire des trucs aussi compliqués sur YouTube. Comment est-ce que toi, tu t'as vécu en fait ce passage de dire, je développe toujours des idées, mais je les développe dans un contexte totalement différent?
Alors, c'est une question que je me pose vraiment. Quand je lis les articles que je publiais quand j'étais universitaire, je me dis, ok, d'accord, c'est extrêmement sophistiqué. Et je me demande vraiment si c'est vraiment de la qualité. Parce que tu peux quand même, quand t'es universitaire, développer des trésors d'intelligence et de sophistication pour dire finalement des choses qui mordent assez peu sur le réel. Et du coup, je me dis que là, j'arrive à trouver un assez bon compromis entre quelque chose qui est exigeant intellectuellement mais quelque chose qui a un vrai impact sur le monde. Donc, je pense que de ce point de vue-là, ça marche bien. Et je me suis demandé si j'étais encore capable de m'installer vraiment dans le développement de mes idées, dans le, Parce que quand on, finalement, quand on produit des vidéos, c'est un processus qui est beaucoup plus court que quand on écrit un article scientifique. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'écrire un livre. On a le même éditeur d'ailleurs, et mon livre va sortir bientôt. Et en fait, c'est encore là. Je suis encore capable de m'installer vraiment dans le développement d'une réflexion, dans le développement d'une pensée. Et donc, je pense qu'après ce livre-là, j'en écrirai d'autres pour pas perdre ça.
Du coup, c'est un livre que tu vas axer plus sur un angle académique et moins sur un angle « Je suis Victor Ferry, YouTuber » ou c'est « Je suis Victor Ferry, YouTuber » ?
Ah non, il y a pas tellement « Je suis Victor Ferry, YouTuber ». Je voulais faire un traité de rhétorique. Donc, je voulais faire un livre qui ressemble à un traité de rhétorique antique, comme ce qu'aurait pu écrire Quintilien, comme ce qu'a écrit Aristote, que les gens peuvent prendre et donc les accompagner comme ça dans le développement de leurs compétences rhétoriques, mais appliquer aussi aux réseaux sociaux, parce que je considère que les réseaux sociaux, c'est un super terrain d'expérimentation rhétorique, notamment avec toutes les analytics. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment possible quand on fait une hypothèse de se dire je vais le tester. Alors que quand Aristote a écrit son traité, la manière de savoir si un discours marchait, c'était le vote du public, c'était les applaudissements. Il n'y avait pas tellement plus d'indicateurs pour savoir si ça fonctionnait.
Du coup, le livre, c'est pour quand ?
Ça va sortir normalement à la rentrée. Donc là, j'ai eu les premières épreuves et donc on continue.
Du coup, tu disais que j'avais galéré sur mon propre livre. Ça t'a pris combien de temps d'écrire le tien ?
Mais le truc, c'est que moi, j'ai continué à faire tout le reste en parallèle. Tu vois, j'ai continué à faire mes vidéos et ce que j'ai fait, c'est que pendant un an, j'ai consacré 2 jours par semaine à l'écriture de mon livre. Donc, j'ai continué à faire le reste en parallèle. J'ai pas fait un gros sprint où j'ai mis la tête dans le guidon, parce que j'ai fait ça quand j'ai écrit ma thèse où j'ai mis tout sur off pendant 6 mois pour faire que ma thèse, et je trouve qu'on perd en efficacité parce que l'esprit, il a besoin de s'aérer et pour s'aérer l'esprit, il faut switcher sur d'autres choses, il faut avoir d'autres projets en parallèle, parce que si on mise tout sur notre bouquin, que ça devient notre petit bébé, etc., on attache trop de sentiments, je trouve, au processus et on risque de perdre en efficacité.
C'est intéressant parce que moi, j'aurais donné exactement le conseil inverse de te focaliser sur le truc et de ne pas perdre ton focus à switcher d'un élément à l'autre et de ne pas avoir besoin de recharger l'ensemble du contexte à chaque fois, de où est-ce que j'en étais, quel était le truc suivant, etc. Et quand tu es dedans, tu es dans la lignée, tu vas du point A à un point B. Tu perds pas le contexte, quoi. T'es immergé dedans et c'est à ça que tu penses entre deux. Et donc, du coup, le truc mature pour la prochaine fois. Alors qu'en fait, si t'as 4 trucs auxquels tu penses, finalement, quand t'arrives, tu dis bon, ok, j'en étais où. tu revois ce que t'as fait et tout, tu vois. J'essaie dans la mesure du possible sur ce genre de truc de focaliser sur une chose à la fois, ce qui est de moins en moins possible, très honnêtement, à cause de plus du côté business et des équipes, etc., qui, moi, me donnent plus forcément la flexibilité. De jouer l'ermite. Même quand j'écris mon livre, c'était déjà plus possible. Tu vois, j'avais déjà des équipes, etc. Mais c'est un des rares trucs qui me manque, tu vois, de pas pouvoir être full ermite pendant genre 5 jours sur une vidéo, un truc comme ça. Et de devoir, voilà, du coup, je partitionne ma journée, etc. Tu vois, un des avantages d'habiter à l'étranger, c'est aussi que même matinée, tout le monde, personne avec qui je travaille est réveillé, comme du coup j'ai 5 heures d'avance, grosso modo j'ai mes matinées pour écrire, tu vois, donc je suis à mi-chemin entre les deux approches où je fais des autres trucs la moitié de la journée, mais j'essaie d'avoir mes matinées dans une chaîne de matinées qui vont être sur le même projet jusqu'à ce qu'il soit terminé. Un élément qu'on a évoqué, Victor, c'était que tu n'es pas un grand fan des concepts de développement personnel. Alors que je pense que la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, les gens qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, généralement, le développement personnel, ils sont assez dedans. Donc, quel est toi ton argument contre le développement personnel ?
Parce que je trouve que c'est un repli sur soi. C'est une espèce de quête intérieure. Allez, je vais prendre 1 mois, 2 mois pour me retrouver. Il faut que je me retrouve, il faut que je m'aligne, etc. En fait, ça m'énerve parce que, effectivement, notre subjectivité, notre monde intérieur est un puits sans fin. On peut passer une vie à essayer de l'explorer. En attendant, le monde tourne. Et donc, la démarche rhétorique, c'est le contraire de ça. La rhétorique, c'est une discipline qui est fondamentalement politique. Et ça veut dire que, on a notre petite individualité, c'est gentil et c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est le groupe. Ce qui est important, c'est la société. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut apporter pour hausser le niveau général. Et donc, je sais que dans le développement personnel, ils y arrivent à dire oui, mais quand tu améliores les autres, tu rayonnes, etc. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Ça n'a jamais été une époque avec autant de problèmes à régler. Et commencer par ça. Commencer par ça. Et ça, c'est une belle quête. Parce que imagine, tu te plonges dans une quête intérieure et tu te rends compte qu'en fait, bah, t'es juste quelqu'un qui est comme les autres, qui est pas plus intéressant que les autres, qui se pose des questions comme les autres. T'as passé 15 ans de ta vie, t'as dépensé plein d'argent et t'as rien apporté au monde finalement. Donc réveillez-vous les gars.
Je te rejoins pas mal ton analyse pour le coup moi, sur mon côté, c'est-à-dire le côté entrepreneuriat business. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que pour mettre ton business, il faut trouver ta passion profonde. Il y a souvent des gens qui me disent bah, « Tiens, ok, je réfléchis à ce que j'ai vraiment envie de faire, je regarde en moi, etc. » Et, enfin, dans l'histoire de l'humanité, personne n'a trouvé une idée de business en regardant à l'intérieur, en disant « Quelle est ma passion profonde ?» Tu vois, c'est vraiment… Pour moi, j'ai une approche, pour le coup, beaucoup plus… j'ai envie de dire mercenaire, même si la connotation est négative, mais un truc de me dire « Ok, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de quoi? Ils achètent quoi? Où est-ce qu'ils dépensent leur argent? Qu'est-ce qu'ils font? Ok, ils ont des problèmes et les gens ont plein de problèmes. Est-ce que moi, j'ai la possibilité de leur apporter une meilleure solution, etc. » Et finalement, connaître ta passion personnelle, ton envie, ta mission de vie, etc. En abstraction, tout seul, en flottant dans ton petit nuage, ça a peu de sens, tu vois. Après, par contre, ça, c'est un truc que tu peux construire en contact avec le monde réel. Par exemple, toi, si tu es une personne qui a toute une expérience sur la rhétorique et que c'est ça que tu considères comme étant ta force, etc., la question, ce n'est pas ma mission, c'est ça et je vais faire du truc tout seul dans mon coin. C'est OK, comment est-ce que je positionne ça et comment est-ce que j'utilise cette force pour apporter aux gens quelque chose qu'ils ont envie d'avoir, en fait, en l'occurrence des vidéos que tu fais. Tu vois. Donc, c'est vraiment comment est-ce que les deux ont une cohérence, mais en isolation, ça a peu de sens. Donc, après, être conscient de tes forces et de tes faiblesses, c'est utile. Ça t'évite d'aller sur des idées où tu ne vas pas être pertinent. Par exemple, moi, pendant un an, j'avais testé des idées qui étaient des idées plus d'agence marketing, ce genre de choses. Mais en fait, si tu fais un business d'agence marketing, c'est un business qui est basé sur le fait de passer beaucoup de temps à vendre tes projets, beaucoup de temps en réunion, beaucoup de temps en ressources humaines. C'est de la gestion de personnes plus qu'en fait des compétences marketing qui sont nécessaires pour monter l'agence. C'est du réseautage, etc. Ce qui n'est pas fondamentalement moi, mes grandes forces. Ce qui fait que du coup, c'est un truc qui n'est pas vraiment adapté à qui je suis. Mais ce n'est pas tant une intériorité plutôt que de dire y a des gens qui vont être meilleurs que moi là-dessus, des gens qui vont être des meilleurs networkers que moi. Et donc, je ne devrais pas être en concurrence avec des gens qui sont plus forts que moi. Mais partir en jour 1 de qui je suis et quelle est mon intériorité pour trouver une idée, je trouve ça vraiment dangereux en fait. Parce que si en jour 1, ton truc, il est construit sur qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et pas sur qu'est-ce que je vais apporter à mon client, Tu vas toute ta vie toute ta carrière avoir des problèmes qui sont ça se trouve les gens ils veulent pas de ce que tu proposes quoi. Enfin, c'est pas garanti que parce que toi t'as envie de faire quelque chose ça intéresse les gens par ailleurs et au contraire si tu pars d'un truc même assez basique genre j'ai vu que les gens avaient un besoin et je vais trouver une solution à ça et tu vas quand même te casser la tête pour comprendre le besoin des gens, pour comprendre la solution, pour leur apporter une bonne solution, pour te former, pour apprendre, pour développer les compétences qui sont nécessaires pour apporter cette solution. Finalement, tu vas être beaucoup plus utile, tu vas avoir beaucoup plus de succès. Probablement, tu vas te sentir mieux parce que personne n'a envie de faire un truc passion et qui ne marche pas. Et au final, je préfère faire un truc pas passion. Genre, je préférais à la limite avoir un site qui vend... Le jour, j'ai vu un mec qui vendait des filtres pour air conditionné, tu vois. Voilà, je ne sais pas si c'est le mec, c'est sa passion, tu vois. Mais il a appris, il a une compétence, il est assez pointu, il est assez technique, il fait ça et ça marche bien. Il est content et puis il aide les gens sont super contents d'avoir son site et de pouvoir acheter des trucs, surtout quand il fait super chaud. Mais voilà, moi, je trouve ça très bien.
Donc, développement personnel, c'est bon, c'est réglé.
Développement personnel, toi, tu l'as enterré. Après, moi, je dirais que globalement, en fait, il y a à boire et à manger. Et moi, j'ai trouvé, après, il faut avouer que j'ai trouvé quand même pas mal de valeur. Dans l'idée que par exemple que si tu es une personne qui a un gros manque de confiance en soi par exemple et tout d'un coup en fait tu te retrouves bloqué sur tout et t'arrives à rien faire et tu fais rien et en fait tant que t'as pas réalisé ces problèmes que tu as tu vas te retrouver face à des murs imaginaires et là pour le coup je pense qu'il y a un certain nombre de croyances limitantes etc. que les gens peuvent avoir et peut-être que toi tu les as jamais eues du coup et là ça peut avoir de la valeur même si tu vois ça va pas si loin que ça en fait. Les gens ont l'impression qu'ils vont pouvoir faire un tel travail de développement personnel que ça va tout changer. Pour moi, c'est plus un espèce de socle que si tu n'as pas ce socle, tu n'arrives pas à construire des trucs dessus Et une fois que tu l'as, il faut passer à autre chose. Je pense, comme tu le dis, que si tu fais 15 ans de dev perso, c'est compliqué.
Attends, mais je vais préciser en fait le... Je vais préciser le point en fait. C'est que l'idée, c'est que je trouve que ce qui est important, c'est plus la psychologie et la psychologie expérimentale que le développement personnel. D'accord. Je trouve ce qui aide, c'est de se rendre compte de quel genre de machine on est, ouais. De se rendre compte que finalement, on n'est pas si exceptionnel que ça, que même si on a une capacité à nous raconter des histoires extraordinaires, bah, la manière dont on fonctionne, c'est quelque chose qui a pas beaucoup évolué depuis des millénaires. Et puis surtout, il n'y a rien de plus proche que nous, de nous, que le voisin. On a une capacité à se croire exceptionnel, alors que finalement, on a tous plus ou moins le même fonctionnement. Et c'est ça qui rend humble, c'est de se rendre compte, mais en fait, je ne suis pas si exceptionnel. Je fonctionne un peu de la même manière que les autres, et il faut que j'arrête de me raconter des petites histoires. Et du coup, si je ne suis pas si exceptionnel, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour, partant des limites de ce qu'est un être humain, pour pouvoir hausser le niveau et aider les autres autour de moi à arrêter de se raconter des histoires et à hausser le niveau. Donc, je trouve que l'introspection, c'est un piège. Par contre, l'étude scientifique de ce qu'est un être humain, ça, c'est utile.
Ouais. Victor, la trois questions que je pose aux gens avant de terminer cet épisode. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ?
Ouais, j'aime bien recommander le livre qui s'appelle Imperium. Et Imperium, c'est un livre sur l'ascension de Cicéron.
D'accord.
Donc, et ce qui est intéressant, c'est que Cicéron, c'est un bourgeois. C'est pas un noble. Et donc, il a tout approuvé. Et il arrive à se hisser jusqu'aux plus hautes fonctions de Rome parce que c'est un très bon avocat. Et donc, c'est un livre qui est raconté comme un thriller. C'est très bien fichu. Et ça motive, en fait, à apprendre la rhétorique.
Si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là, il aurait besoin d'entendre ?
Je trouve qu'il s'est pas trop mal démerdé.
Mais qu'est-ce qui lui manquait ? Ou qu'est-ce qu'il aurait pu apprendre ? Ou qu'est-ce qu'il avait encore à apprendre et que tu as appris aujourd'hui ?
J'aurais fait des choses plus tôt. Enfin, y a plein de choses qu'on peut faire plus tôt, se lancer sur YouTube avec au début du média, etc. Mais est-ce que j'aurais eu ce que j'avais dans la tête pour pouvoir le faire bien ? Donc, ça va, c'est pas trop mal passé pour le moment.
Finalement, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ?
J'essaie d'éviter les citations.
Pourquoi ?
Vraiment. Alors pourquoi ? Parce que souvent, quand tu cites quelque chose, ce que tu dis à ton public, c'est « je reconnais que cette personne a été capable de formuler mieux que moi mes idées ». En fait, une citation, c'est un aveu d'impuissance. Et donc, ce que je dis généralement, c'est « ne cite pas, deviens citable ».
Est-ce que tu as ta propre citation, un truc que tu as dit, une espèce de catchphrase dont tu te souviens, que tu as mis dans une vidéo, par exemple, tu dis ça, c'était vraiment bien, et j'aurais envie de la faire ressortir et de la répéter.
Ouais, je pense que c'est... donc, quand j'ai refusé pas mal de collaborations sur YouTube jusqu'à maintenant, et la manière dont je l'ai justifié, c'est « on n'atteint pas la lumière dans l'ombre de quelqu'un ».
Très bien. Et ben écoute, sur ce mot de la fin, j'ai laissé une petite pause dramatique. Merci Victor d'être venu partager avec nous.
Mais enchanté, ça m'a fait plaisir de te voir en vrai.
Entre guillemets, on va dire. Ça marche. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de recevoir chaque lundi mon email où j'envoie mes meilleures découvertes marketing et psychologie de la semaine, il suffit de vous inscrire sur marketingmania.fr/mix pour recevoir le mix du lundi, un email que j'envoie du coup chaque lundi où je vous partage les meilleurs liens, les meilleures vidéos, les meilleurs articles que j'ai découverts pendant la semaine avec mes analyses psychologiques et marketing sur ce qui s'est passé dans la semaine. C'est marketingmania.fr/mix. Je vous retrouve lundi prochain dans le mix et mardi prochain pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.